Donc voilà. L'Ukraine doit renoncer à adhérer à l'OTAN et à reconquérir les territoires perdus depuis 2014. C'était déjà, un discours, alors moins exprimé de façon moins brutale, mais déjà à la fin de Biden, on entendait ça du côté américain. Il y a eu le fameux clash entre Trump et Zelensky et J.D. Vance à la Maison Blanche. Alors, je pense qu'il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est la vindicte personnelle de Trump vis-à-vis de Zelensky, qui date d'avant, puisque Trump s'était forcé d'obtenir de Zelensky qu'il enquête sur le fils de Biden qui avait les parts d'une société gazière. Et Zelensky, c'était plutôt un reste de l'administration Biden. Il s'est dérobé à ça. Et ensuite, il a même été instrumentalisé pour poursuivre Trump après qu'il ait été battu par Biden. Donc, ça reste pour lui une plaie. Je pense que ce ressenti s'est largement exprimé lors de cette clash à la Maison Blanche. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs le fils Trump lui-même vient de prendre des parts dans une société qui reste à la maison. Toutes ces sommes d'argent qui circulent sont très contentes pour les rejetons des présidents respectifs. Le point d'achoppement, c'est donc ces fameux 15-20% du Donbass. Il y a aussi le fait que les deux présidents, les deux alliés, Volodymyr, sont fragilisés. 4 ans de guerre, 4 ans plus 4 ans. Il y a une usure. Contestation sourde, y compris en Russie, qu'on voit apparaître. Il y a le fameux, ce qu'on appelle le PowerPoint d'Initiaire. C'est un document qui est sorti il y a 2 semaines environ. Donc, Initiaire, c'est le chef du fonds d'investissement russe, qui accompagne, qui est toujours en marge des négociations. Et ce PowerPoint, il donne des éléments de langage pour expliquer à la population pourquoi on doit s'arrêter. Pourquoi une victoire à la Pyrrhus, finalement, c'est peut-être le mieux qu'on puisse obtenir. Donc, on voit donc que même du côté russe, et il y a des sondages qui sont manipulés, mais pas conformément. On voit que la popularité de Poutine se rend. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue générale, y compris du côté russe, et du côté ukrainien, qui n'est pas du tout. Il y a des affaires de corruption du côté ukrainien. Donc les deux sont fragilisés. Et on pourrait imaginer que ça puisse s'entendre, mais dans un premier temps, ça pousse plutôt à essayer d'obtenir le dernier coup de rein. Qui va faire basculer, on peut faire à mon avis, parce que comme vous l'avez dit, comme Christian l'a dit aussi, toutes ces frappes en profondeur font des dégâts, mais ne changent pas vraiment la donne sur le terrain. Depuis lors, on a ce retrait, ce désintérêt américain, même plus dissimulé, et une tentative des Européens de faire invité en tant que nouveau médiateur bien différent de Trump dans ce conflit.
La donne change que vous êtes en faveur côté russe, même côté russe, il y a aussi une autre position, une position qui de belliqueux, sérieux, qui jugent que la Russie n'est pas assez offensive. Une grande Dugin, qui les ultra de ces russes, qui eux ne sont pas pour péter des nucléaires. Ils disent qu'il faut terminer la grande guerre patriotique et liquider les nazis. D'ailleurs, il faut reconnaître que l'Ukraine donne un peu de grain à moudre à ces excités russes, de ce côté, puisque en baptisant le centre opérationnel, un de leurs centres opérationnels, les héros de l'UPA, notamment la semaine dernière, l'UPA, c'est l'armée internationale ukrainienne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, a pris des armes contre les soviétiques et a massacré environ 100 000 Polonais et des minorités juives. Ils ont participé à un choix pas de mal. Et donc, effectivement, le fait de baptiser une unité militaire en juin. Les héros du PA, donc de l'armée internationale de la guerre mondiale, ça apporte du lourd du lien pour entendre ce truc. De même que les rues Bandera, Stéphane Bandera, etc., qui était donc un grand collaborateur, qui avait été clairement allégeant au rang. Et puis les transferts de France de Munich, qui est également de la branche politique de l'UPA. Voilà. Tout cela apporte de l'eau à la propagande russe. Là, il est posé. Maintenant, on peut parler de la nature de la reconnaissance du contrôle russe des territoires conquis depuis 2014. Il s'agit d'une reconnaissance déjurée ou de facto, il faudra se poser cette question. Une reconnaissance de facto laisserait théoriquement ouverte la possibilité de rouvrir la question dans un contexte futur, hypothétiquement plus favorable à l'Ukraine. On pourrait être à la mode d'attente admissible. Alors, une possibilité apparemment envisagée par les Américains. De considérer le rattachement de cette Crimée comme définitif et de l'entériner juridiquement, compte tenu du caractère spécifique de ce territoire dont je vous parlais tout à l'heure, rattaché tardivement par Khrouchtchev à l'Ukraine, à la République soviétique d'Ukraine en 1954. Donc, ça, c'est le point de vue américain. Mais de quel point de vue américain, comment on peut dire, il n'est pas il est moins favorable à l'Ukraine, puisque Tulsi Gabbard, qui jusqu'à la semaine dernière était directrice du renseignement de toutes les 13 agences de renseignement américaines, Tulsi Gabbard, elle a été nommée par Donald Trump, elle avait déclaré à plusieurs reprises que, avant et après sa nomination, que la perspective de la division de l'Ukraine à l'OTAN était une grande erreur. Et que tout cela, cette grande erreur, avait contribué au déclenchement de la guerre. Par contre, de 13 agences de renseignement comme ça, alors maintenant, elle n'est plus depuis la semaine dernière, mais elle ne sait pas. Déjà, c'est qu'elle n'a pas été écartée de ce poste à cause de cette déclaration. Ces déclarations sont antérieures et immédiatement postérieures à sa nomination. Un autre point sensible est celui des garanties de sécurité. Alors, avec d'éventuelles troupes étrangères sur le terrain. Alors, on peut se poser la question, parce que évidemment, cette question se pose au plus haut échelon politique et militaire. fait des composants de l'OTAN. Pour la raison que les gens montrent pourquoi ils lancent bon, que les composants soient autant soient des composants de l'OTAN me paraît parfaitement réel. Par contre, une mission de style maintien de la paix avec des pays contributeurs d'origine diverse pourrait être envisageable. Le seul membre de l'OTAN, c'est-à-dire qui pourrait être admissible à la protection de la nationale en même, ça serait peut-être la Turquie. À cause de grâce au fait de leur diplomatie assez abusée, d'ailleurs, il faut le reconnaître. Quant au reste des garanties de sécurité, en plus, l'OTAN, il me paraît raisonnable d'oublier, d'autant plus que Donald Trump lui-même n'est pas trop sûr de vouloir appliquer l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Et ça ne peut pas aux pays qui n'atteignent pas les 5% de leur PIB en défense militaire, voire quand on ne parle pas de retirer de l'Alliance ou de déployer ses troupes vers d'autres théâtres, comme le théâtre soviétique. Donc, il sera très important de voir, et l'ambassadeur en parlera évidemment, le rôle de l'Europe là-dedans. L'Europe, or, sans le drapeau otanien, pour parvenir à mettre sur pied l'ensemble des garanties de sécurité qui pourraient être suffisamment rassurantes et protectrices pour les Ukrainiens et admissibles pour les Russes.
Il y a très peu de temps, les Européens, la France en particulier, étaient plutôt dans le soutien de l'Ukraine, plus que des médiateurs, une espèce de partage informel d'État, plus que la médiation des États-Unis. Aujourd'hui, les choses sont en train de. Notre soutien à l'Ukraine a pris notamment la forme d'opérations de réassurance en Roumanie dans l'État baltes, qui a consolidé notre crédibilité au sein de l'Alliance Atlantique, mais sans changer la donne sur qui mène la médiation, ce qui vient c'était jusqu'à présent les Américains. Comme lui, il a, contrairement à la plupart des dirigeants européens, y compris une situation confortable où il peut saluer son prédécesseur. Il venait d'arriver, conformément à son tempérament, il peut charger, Biden, disons que la guerre de Biden, c'est pas la mienne, ça m'aurait jamais eu lieu si j'avais été président, etc. Ça me pose aucun problème de rendre à nouveau fréquentable la Russie, de la réinsérer dans les jeux de la communauté internationale, y compris en risquant un refroidissement transatlantique avec notamment la Pologne. Mais bon, la Pologne, c'est la question de ce qu'il y a à voir. Mais la Pologne ne la fera jamais la
francophonie.
La Pologne est très embêtée, encore une fois, les choses sont très mouvantes. Cette tendance de Trump à reprendre, et là je vous renvoie aussi à cette vindicte anti-Zelensky, à reprendre les arguments russes, cette situation elle est en train d'évoluer, puisque depuis la série iranienne, Trump est un peu tendance à. Dans un dossier, je veux dire, comme un enfant, il joue avec un petit peu de choses sans avoir vraiment réglé le problème. Et donc, on est dans cette phase où les Européens, et tout à l'heure, les trois ambassadeurs. supposerait de reconnaître quand même certaines positions russes. Donc c'est très difficile, en même temps sous la surveillance des Polonais, des Baltes, de Mme Kalas, qui est justement un stage milieu en ce moment. Mais c'est quand même une perspective intéressante. Désintérêt de Trump pourrait jeter une opportunité. Alors, il y a aussi le fait que, comme ils ont rappelé, la France et l'Allemagne, ce de Bucarest, se sont opposés à la désunion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, et en particulier la France a une image un peu plus qui convient plus à l'éventuelle ouverture en direction de Moscou. Mais tout ça est très fragile. On ne peut pas non plus lâcher, changer une monture comme ça du jour au lendemain. C'est difficile de conclure là-dessus, puisque c'est un processus en cours, extrêmement mouvant. On peut espérer, même si on est en train de bloquer en ce moment, quand même, on va dégager cette solution, elle sera sans doute assez proche de la carte qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui en résultera? Qu'est-ce qui en résultera? Sans doute, certes, la Russie aura capté une bonne partie du territoire ukrainien et de la Nouvelle-Russie, mais humain très élevé, pour un ostracisme par la communauté internationale, en tout cas du côté nord, du côté occidental, vont mieux manœuvrer du côté du sud global. Et inversement, l'Ukraine, même réduite de X% de son territoire, sortira grandie. Le rassemblement de l'Union européenne, même si là aussi on voit depuis quelques temps, dans l'affaire de l'UPA, quand même, nous paraît un peu que c'est lointain, mais apparemment pour les Polonais, ça reste extrêmement vif, hein, cette affaire-là. Donc là, après, vous avez l'agriculture ukrainienne, qui a suscité des résultats. On voit que là aussi, les choses évoluent vers une espèce de réel politique. On voit un certain nombre de pays qui disent, bon, finalement, l'adhésion à l'Union européenne, faut voir. Et ça va prendre du temps. Les Hongrois, Matthias, qui a remplacé Orban, certes, a levé le veto sur l'aide à l'Ukraine, mais il est tout aussi nationaliste que son prédécesseur, et notamment parce qu'il y a aussi une composante hongroise. En Ukraine, c'est carpathique, c'est aussi une terre d'achoppement entre les Hongrois et les Ukrainiens qui ne va pas disparaître non plus du jour au lendemain. Donc, il y a beaucoup de choses à régler dans les mois et les années qui viennent. Je pense à penser qu'on va aller vers une adhésion peut-être à géométrie variable de l'Ukraine, mais à des fonds peut-être plus politiques qu'économiques. Pour assurer les agricultures des pays membres, des grands pays membres, dont la France. Donc, la question aussi se posera, est-ce que la Russie va redevenir à un moment donné un interlocuteur valable? Enfin, c'est déjà le cas. On va la réinsérer dans la communauté internationale, dans quelles conditions? Est-ce qu'elle va pouvoir se réconcilier les Ukrainiens, se réconcilier les Russes, comme nouvellement les Français l'ont fait finalement en Syrie après la guerre mondiale. Donc tout ça, c'est des questions qui sont ouvertes, qui vont devoir être traitées par les dirigeants, notamment de l'Europe occidentale. L'idée aussi, c'est de ne pas laisser aux Américains le monopole de cette reprise du dialogue, mais bon, c'est déjà un peu le cas.
Tu dormais? Tu dormais? T'as dormi longtemps?
Non.
T'as dormi longtemps? Tu fais une soupe? Tu vermicelles? Je fais un petit vermicelle?
Non.
Je te fais un vermicelle?
Non.
Ok.
Ça va, ça va bien.
Très bien.
Oh, là, cette guerre trempait l'acier de la nation ukrainienne. Trempait l'acier de la nation ukrainienne, trempait bien sûr l'acier de l'armée ukrainienne. Ce qui en restera un peu sûr, c'est que l'Ukraine s'est-elle appliquée une partie de son territoire, l'Ukraine qui a obtenu son indépendance grâce au seul effondrement de la vie politique sur elle-même, encore une fois, elle est sans beaucoup de choses à tirer. Cette Ukraine, amputée d'elle-même d'ailleurs, parce que quand la France s'opposait à son intégration dans l'OTAN en 2008, elle le faisait à juste raison, puisque les sondages d'opinion donnaient le refus de l'adhésion à l'OTAN comme majoritaire dans la population ukrainienne. Et linguistiquement, c'est pareil, quand j'étais à Kiev, à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, on parlait avec les autorités, on était perçu même par certaines autorités, notamment le maire de Kharkiv, qui disait non, il n'y a pas de guerre, on parlait russe. Parfois, on avait demandé de l'appel des Ukrainiens pour faire joli, ou au début, on commençait à les prendre, et tout ça, c'est fini. Donc, la nation ukrainienne et la langue ukrainienne maintenant, et je connais des gens qui sont russophones. Le maire de Kiev, Klitschko, que j'ai croisé, Klitschko, il est fils de crise soviétique, et sa première langue, c'est le russe, comme c'est le cas de ses amis d'ailleurs. Et Klitschko, quand il voyait l'attaché de défense français, votre serviteur, il me parlait en russe. Enfin, il me parlait en russe, et après 2014, c'est pourtant. Et tout ça, c'est fini. Et l'Ukraine, encore une fois, politiquement, culturellement, et naturellement militairement, l'acier de l'Ukraine a été trempé pour la partie
de Zelensky, c'est un parcours intéressant. Il est d'une famille juive russophone de Kivoyrov. Ses parents ont voté Yanukovych à la révolution présidentielle. Lui-même a fait partie de sa carrière de commun à la télévision russe. Et ukrainienne, mais surtout russe, il a gagné beaucoup d'argent à la télévision russe. Et voilà, il avait pris cette spirale, et maintenant il a basculé. C'est tout à fait compréhensible du côté du nationalisme ukrainien.
Vous m'entendez? Oui.
Merci
infiniment pour cette présentation qui nous prend un point complet de la situation ukrainienne avec ses incertitudes, effectivement, parce qu'on sera mal expectatif. C'est que tu disais tout à l'heure au début, les Russes utilisaient la méthode gros bourrin de deuxième guerre mondiale, telle qu'on avait appris de la division qui est en mars, etc. On a tout appris aux écoles, et notamment à Sommier, la première guerre. Voilà. Et qu'ils s'étaient tous adaptés. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'armée russe est véloce comme l'armée ukrainienne, ou bien il garde une forme de rigidité? C'est une chose qui m'intéresse sur le plan militaire.
ils s'adaptent aux Ukrainiens. Et par exemple, comme les Ukrainiens, un exemple de leur vérité nouvelle, ils, à cause des drones, précisément, ils manœuvrent en masse et de façon excellente, comme les Ukrainiens eux-mêmes. Mais par exemple, en termes d'avancée, là, c'est une des premières. En termes de combat d'avancée, maintenant, ils ont des toutes petites équipes sur le terrain, de trois hommes, qui vont de couvert à couvert, mais il n'y a plus de grandes. De toute façon, la division de physique de l'Ouvrier en Kangar, c'était bien. Donc, pour répondre à ta question, oui, ils s'adaptent aussi, et dans les bonnes conditions. Donc, vers une armée très technique, avec beaucoup de drones, comme les Ukrainiens, et des petites unités très mobiles, très légères pour le terrain.
Très légères, avec une délégation du commandement au plus petit vaisseau, du coup, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on a appris en général au RNB. Parce que vous avez appris à l'école il y a 30 ans, hein, pas du tout. Voilà.
Non, oui, mais les Russes, ils font, comme une fois, comme ils ont un. Ils apprennent de leurs erreurs. Mais après des pertes énormes, considérées, finalement, la vie de notre soldat, dans n'importe peu, dans l'art du commandement russe, mais tout de même maintenant, même si la vie de leurs propres soldats leur importe peu, surtout si en plus ils sont de la République de Touva ou de Yakoutie, ils sont rappelés à des justes enseignements de la guerre. Et ils doivent s'adapter, ils le font, Alors, il restera bien sûr peut-être la situation et la. Mais pour répondre à ta question, ils le font très efficacement après les pertes et après la défaite, tout de suite. Car, évidemment, ils ont quand même une défaite, mais je pense qu'ils savent en temps.
Une question pour M. l'ambassadeur. On parle de résolution de crise, etc. On parlait de l'Europe, bien entendu, dans le rôle de l'Europe, dans la résolution des crises, et que l'Ukraine ne peut pas être peut-être, etc. Mais moi, je parle de la diplomatique dans le processus de résolution de la crise. Est-ce que nous sommes out ou est-ce que nous avons, selon vous, un rôle à jouer? Et est-ce qu'on pourra ce rôle? Enfin, même si on a envie de le jouer, est-ce qu'on est des acteurs crédibles permettront de peser, ou est-ce qu'on est condamné quelque part à regarder les autres ou à notre place?
L'événement de cet après-midi où trois ambassadeurs sont allés au Mille, alors c'est trop tôt là, on est dans des échanges, des événements de langage, mais quand même, on essaie de mettre un pied dans la porte. On est sous la. Il y a le problème des Américains. Est-ce qu'ils ont fait pour reprendre la main au dernier moment? On sait que ce format de E3, chagrine par exemple les Polonais, les Italiens, Mme Kallas. Enfin, il y a plein de rumeurs en ce moment sur le fait que Mme Kallas. Est en train de vous dire, mais je pense que on a un acquis qui nous est souvent reproché, c'est ce dialogue particulier. Mais je pense qu'on a maintenu un équilibre entre le soutien à l'Ukraine et essayer de maintenir une voie de dialogue avec Moscou. Et c'est plutôt un avantage. En disant que les Allemands, c'est pas possible parce que c'est les Allemands, c'est le premier pays à y aller, par exemple, un médiateur italien ou français pourrait. Ça, c'est de la spéculation. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer. Et que, si on se comprend bien, on peut s'inviter, plus seulement dans le soutien, qui reste indispensable, mais dans la médiation. C'est un exercice intelligent.
Alors, on va vous passer maintenant la parole. Donc, j'ai sorti le micro. Et sur Internet également, vous pouvez éventuellement envoyer des messages. J'essaierai de vous les retransmettre. Voilà, je vous passe le micro. Une première question. Voilà, si vous avez vous pouvez chercher le micro, s'il vous plaît.
Oui, ingénieur général Bascari. Il y a une dimension dont on ne va pas parler ce soir, c'est la dimension économique. Les deux pays souffrent de 4 ans de guerre. Bon, la Russie, 11e puissance économique mondiale, a certes vu le prix du gaz augmenter fortement. L'Ukraine pourrait bénéficier d'un prêt de l'Europe de 90 milliards de dollars. Bon, dans un pays qui est quand même fortement marqué par certaines hypothèses qui s'appellent corruption, la vie va devenir difficile au bout de 4 ans de guerre. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là et comment voyez-vous le rapport de force entre les deux pays?
Il est évident que la Russie, en économie de guerre, ça a de bon côté parce que ça relance artificiellement économique, les salaires augmentent, ceux qui travaillent dans ce secteur prioritaire de la défense, mais il y a aussi de l'inflation. Les réserves russes, ils ont ces hydrocarbures en abondance qui sont quitté le marché européen, pas en tant que ça d'ailleurs. Mal de gaz russe qui continue à être importé. Et avec ce qui se passe en Iran, il semblerait que la flexibilité soit à l'ordre du jour de plus en plus de ce côté-là. Et puis, ils ont toute l'exportation vers l'Asie, vers la Chine. Nonobstant les sanctions, le plafond est plus du baril, etc. Ils ont des réserves, mais qui sont pas. Je ne pense pas que ce soit le facteur énorme, je pense que c'est plutôt la fatigue générale de la population devant une guerre qui devait soi-disant la fleur au fusil, on l'a dit, c'était en quelques semaines et puis dure depuis 4 ans et demi, même si la classe moyenne, la classe. Même en Ukraine, passe à travers, parce que les gens, comme le disait Christian, la chaleur canon, elle vient plutôt des régions périphériques, des prisons, des coréens, etc. Beaucoup de jeunes sont partis à l'étranger, comme je disais, on en croit que c'est pas mal, c'est pareil. Il y a quand même une lassitude. Même si, du fait de l'absence de leadership américain, il n'y a pas vraiment de médiateur reconnu à ce stade, et ce de vide, je sais que les choses patinent. Mais je pense qu'à un moment donné, la réalité devra se. Par un accord statut bancal, sans doute. Mais c'est pour ça que l'économie, c'est tout un truc, les Ukrainiens ont aussi cette fusion occidentale. Je ne pense pas que ce soit le facteur qui va vraiment faire basculer. Ils ont tenu 4 ans, ils ont tenu 2, ils sont prêts à tenir un peu plus, mais après, il y a le coût humain et politique. À mon avis, est quand même le facteur numéro 1.
merci des considérations très intéressantes que vous nous apportez. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on a une idée de la popularité de Zelensky au cœur de son pays ou de ce qu'il en reste? Est-ce que les positions extrêmement courageuses, d'ailleurs, mais radicales qu'il a prises, peuvent permettre qu'il s'engage dans la perspective que vous avez évoquée à la fin de votre exposé? Et est-ce que Zelensky n'est pas aujourd'hui devenu un élément du problème après avoir été une sorte de sauveur de l'Ukraine?
Oui, alors, comme vous le savez, c'est un peu plus long ici.
Ça va? Ça va?
Le traitement actuel polarise un peu les choses. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent, c'est suffit, on arrête, on se coule assez vite, et puis il y a les plus nationalistes dans les deux camps qui disent, Poutine est impopulaire,
C'est bon?
Hein?
C'est bon?
Tu veux le servir et tu laisses refroidir.
Tu veux le laisser refroidir.
C'est un peu difficile. Il y a des sondages pour Zelensky qui montrent qu'il est assez populaire, mais il y a quand même ce qu'on fait de corruption dans son entourage très proche, qui se rapproche de lui. Et donc, à un moment donné, il est possible que ça. Je sais qu'il ne sera pas soumis à l'élection présidentielle depuis deux ans. Donc, tout ça le. Mais il a quand même rendu des signes et services à l'Ukraine qui fait qu'on ne va pas, le mettre dans le fossé comme ça du jour au lendemain. Donc c'est vraiment très, très compliqué et c'est très mouvant. Avec deux directions qui sont fragilisées et qui comptent, qui tablent sur l'implosion de l'autre. Il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Ça, il faut effectivement que quelqu'un prenne l'initiative et dire bon, allez, c'est ça, on vous propose un plan qui sera sans doute différent du plan d'Ankor. Parce que vous avez dit l'esprit d'Ankor, l'esprit d'Ankor, l'esprit d'Ankor, c'est bon, les Ukrainiens n'étaient pas là. Le deal à Ankor, en tant que ça, c'est vous renoncez à tout le monde bas, et nous, on vous donne des garanties de sécurité en béton. Apparemment, ça a convaincu totalement les Ukrainiens. Quand on voit les circonvolutions des Américains sur l'article 5, il y a quand même des doutes, donc ils ne veulent pas lâcher la croix pour moi.
Par ailleurs, à mon avis, il y a dans le type de télévision tout à l'heure, déjà en Ukraine, des gens qui réfléchissent bien sûr à l'après Zelensky. Et il y a un nom qui s'appuie sur l'ancien schéma, chef d'état-major, l'équivalent du schéma, chef d'état-major des armées, qui nous a nommé, qui a été relevé en commandement de schéma et qui a été envoyé les bonnes punitions comme ambassadeur. À Londres. Et donc, Zelensky, qui ne veut pas, qui a très bien commandé les armées ukrainiennes, qui a participé d'ailleurs à l'histoire militaire et à la puissance ukrainienne, cela joue Zelensky, encore une fois, il est très populaire dans l'opinion, dans les armées, dans les circonstances à son importance, et il est, je ne sais pas que les postes d'ambassadeur sont des postes de réserve, au contraire. Mais toutefois, vis-à-vis du pays, voilà, il est en dehors du pays, dans un poste éminent, et il pourrait revenir, et il pourrait être non pas le ministre de Kankina, mais au moins l'homme qui pourrait rendre admissible le changement.
Alors, est-ce qu'on peut faire glisser les micros? Là, il y a une, deux. Alors, voilà, ici à gauche, là, il y en a un tout de suite. Voilà. Et puis ensuite, il y a monsieur derrière, là-bas, au fond. On fera passer le micro.
pour ces exposés qui sont tout à fait passionnants. Vous connaissez parfaitement la routine. La question que j'aurais souhaité vous poser, c'est si on se met dans une vision longue, quelle est votre vision de l'évolution de la Russie? C'est un pays qui a toujours été balancé entre l'Asie et l'Europe, avec par remonter à Pierre Legrand qui avait cherché à rattacher plutôt le côté européen. S'intéresse plus au côté asiatique. Aujourd'hui, on parle d'un rattachement, d'un rapprochement un peu plus global, hein, c'est ça, on en parle beaucoup, la Russie, la Corée du Nord. Mais sur le temps long, comment voyez-vous les choses, sachant qu'on parle finalement d'un pays qui fait 145 millions d'habitants, je crois, un produit intérieur brut qui est celui d'Espagne, mais une tradition guerrière très ancrée, mais une tradition aussi impérialiste. Et surtout la disposition de richesses minières innombrables. Donc tout ça donne à la Russie un relief tout à fait particulier. Il est intéressant de s'interroger justement sur ce devenir. Il y a des tendances en Russie, côté européen peut-être, côté global sans doute. Comment voyez-vous les choses? C'est ma question.
Je dirais que la Russie de comprendre les événements, de se tourner vers Chine. Vers le sud global, pour faire une petite parenthèse sur l'Afrique. J'étais ambassadeur en Indonésie, mais l'Indonésie a des règles briques. Donc, elle s'est reportée sur ce discours-là. Notamment vis-à-vis des pays ex-colonies, elle a réactivé ce discours qu'on croyait complètement suranné de la Russie anticoloniale, qui a marché jusqu'à un certain point. Et tout ça, c'est parce qu'elle n'avait pas de débouché du côté européen. Je pense que si on se rouvre, parce qu'on a vu personne, je ne suis pas le seul, la Russie est d'abord européenne. Géographique importante en Asie, mais la population, la mentalité, l'éducation, la culture, ça restera à long terme un pays fondamentalement européen, à charge pour lui de faire les efforts, et là on va arriver dans une phase de redevenir fréquentable. Sur une nouvelle base, même si l'amitié éternelle avec la Chine, enfin, on a vu ce que ça a donné en 69, la Chine est éternelle en relation internationale. Ça va rester. Les gazoducs sibériens qui partent maintenant vers la Chine vont rester. D'ailleurs, l'Europe elle-même a dit qu'elle ne voulait plus importer de gaz. Qui, à mon sens, pourrait sans doute évoluer. Donc, ça va prendre du temps, il faut prendre sur soi, il faut que. Mais je pense que le destin européen de la Russie va revenir à un moment donné, peut-être pas demain, mais dans 6 mois, 1 an, en fonction du contexte de la fédération.
Bonjour, merci. Emmanuel Leparus, Passant. J'ai une question plutôt s'agissant de la personnalité de Poutine. On a un petit peu parlé de Zelensky tout à l'heure, c'est un petit peu moins de Poutine. On sait que la Russie est un pays qui est extrêmement fier, qui attache de l'importance à la force du chef. On voit que la Russie en ce moment est obligée de commander des soldats à la Corée du Nord. On voit qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait avec la Chine. Il n'est même pas allé, lorsqu'il est allé à Matéka la dernière fois, il a dû annuler la conférence de presse à la sortie. Je ne vois pas, compte tenu des positions nationalistes extrêmes qu'il peut y avoir au sein de la Russie, des Kadyrov et autres qui sont jusqu'au boutiste au niveau de la guerre en Ukraine, je ne vois pas comment Poutine pourrait ne pas être pris à son propre piège de la guerre et finalement ne pas pouvoir arrêter la guerre arrête la guerre avec une victoire à la Pyrrhus, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas le risque pour lui que sa tête tombe tout simplement?
Oui, le risque existe. Je pense qu'après, on ne connaît pas le résultat final. Dans une perspective historique, il fera valoir qu'après Helsinki, c'est quand même lui qui a redressé l'économie, qui a ramené dans le giron, même s'il va en lâcher un morceau, le Donbass. Je pense que même s'il y a des mesures, et après la transition, comment il va faire? Est-ce qu'il va faire comme Helsinki, il va sortir comme Helsinki a fait avec lui-même, quelqu'un du chapeau, après l'accord d'été, en disant bon voilà, moi je fais le job, ça fait plus de 30 ans que je suis aux commandes, je redonner son prestige et son aura à la Russie, il est temps de passer la main à quelqu'un de plus jeune. On se gardera bien de faire des pronostics, vu que lui-même est sorti de l'anonymat quasiment total pour devenir président en 1999-2000. Moi, je voudrais plutôt ça. Il s'appuiera sur le fameux PowerPoint en disant écoutez, victoire à la Pyrrhus, certes, mais je vais obtenir une justice. Là, j'ai un sommet avec Trump, je pense qu'il faut, et je pense que ça passera. Il ne faudrait pas que ça passe trop longtemps. Mais bon, je pense qu'il y pense. Là, la constitution a été modifiée de sorte qu'il pourrait encore se faire réunir. Là, il va y avoir des élections à la Douma en septembre. Ça va être intéressant, même si la Russie unie va forcément gagner, mais gagner jusqu'à quel point l'opposition systémique, parti communiste, du LDPR, tout ça est surveillé de près. Il n'est pas exclu de faire un peu de caisse de résonance à cette fameuse fatigue dont on parle. Donc voilà, donc, je ne crois pas à une révolution de palais, par exemple. Mais c'est tellement trompé. Je voudrais plutôt un départ en douceur, orchestré par lui. Voilà. Mais je ne suis pas Mme Soleil, comme dire.
Juste à dire une chose, que si prétendant il y a, comme c'est un régime totalitaire, pour ne pas dire totalitaire, si prétendant il y a, le premier devoir du prétendant en question, pour continuer à vivre, c'est de se casser. Oui. Le prétendant avisé et le prétendant cassé. Monsieur l'ambassadeur et votre directeur, on serait bien capable de vous donner le nom, parce que c'est très bon client. Il est derrière une tenture, il est en train de relire son plan. Mais il ne va pas du tout se manifester, même aux spécialistes qui sont directifs, je crois.
Parce que, pardon, le maire de Moscou, Sobyanin, le fils de Patrouchev, vice-premier ministre chargé de l'agriculture, certainement de noms qui circulent, mais surtout, ça pas.
Alors, il y a une question juste derrière, là, voilà, et ensuite une question devant, me semble-t-il, donc on passe par un monsieur devant, à gauche. Enfin, à votre droite.
Merci.
Bonjour,
je tiens à vous remercier pour vos propos, enfin, qui sont excessivement intéressants les uns et les autres. J'aurai trois ou quatre questions, si vous permettez, à formuler. La première question, ça concerne la réalité sur le terrain en Ukraine. Vous avez évoqué tout à l'heure la réalité de tout ce qui se passe en Ukraine. Ici, en Europe et en France, parfois, on élabore une stratégie par rapport à des données ou des statistiques qu'on ne sait pas. n'a rien à voir avec ce qu'on raconte ici dans les médias. Ça, c'est la première question. La deuxième question.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué tout à l'heure le départ de Trump, enfin disons, de la scène ukrainienne, ce qui donne à l'Europe, enfin disons, une certaine renaissance. Maintenant, d'après vous, combien de temps il faudrait attendre pour que l'Europe soit vraiment, pour qu'elle prenne après une décision dans ce conflit? Parce que s'il faut attendre une décennie, on n'est plus du tout dans le même lieu. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, vous avez évoqué également, monsieur l'ambassadeur, la flexibilité en matière d'apport de gaz en Europe, aujourd'hui. Personnellement, je connais très bien Gazprom. J'avais dirigé le projet du gazoduc pour le compte du gouvernement français à l'époque. Et actuellement, il y a pas mal de sollicitations concernant le gaz ou l'Europe. Est-ce qu'à votre avis, il y a quelque chose de sérieux, enfin, disons, dans ce domaine-là ou pas? Et à qui il faudrait s'adresser? La dernière question s'adresse au général Ritou et à vous tous d'ailleurs. Le général Ritou, qui est une encyclopédie couvrant la guerre en Ukraine et les conflits à travers le monde, dont l'Iran, est-ce qu'à votre avis, il y a un dénominateur commun entre les deux guerres et est-ce que l'issue de la guerre en Ukraine dépend également de l'issue de la guerre en Iran? Merci à vous trois.
Donc, je vais répondre à la première et seulement à la première question. La réalité décrite par les médias sur la situation en Ukraine, je dois confesser que je la connais peu, parce que j'écoute tous les médias, sauf que j'écoute le général Ritou, parce que je vois aux bonnes sources. Mais en tout cas, moi, ce que je sais de la réalité de l'Ukraine, que je connais tout aussi bien que moi, voire mieux, que je tiens des Ukrainiens et des Ukrainiennes avec lesquels je travaille, je rappelle qu'on est venu du camp d'entraînement, là, c'était en février dernier, exactement plus tard. Leur vie, et la vie ukrainienne, des gens, quel que soit l'endroit du territoire, est difficile, puisqu'il y a des coupures d'électricité, ils n'ont pas de chauffage en hiver, ils ont 3 heures de courant par 24 heures suivant des périodes flexibles. Il y a des drones, etc. Donc je ne sais pas si les médias français parlent de ça, je pense que oui, mais c'est leur réalité de vie. Alors, bien sûr, il y a des moments d'accalmie et des moments qui ressemblent à la vie d'avant la guerre, mais ce ne sont que des moments fugaces, entrecoupés d'État, de nombreux dysfonctionnements dans le meilleur des cas et drames dans le pire.
Sur la deuxième question, on ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans, c'est sûr. Il faut que l'Europe se mette en position de prendre le relais de la médiation américaine. C'est pas simple parce qu'on est 27 plus le service européen d'action extérieure dirigé par l'ANCAS et des positions assez intransigeantes. La médiation vue par Paris, vue par Londres, vue par Berlin, Tallinn, Varsovie, Stockholm, c'est pas forcément la même chose. Donc, certains vont dire il faut pousser la tête du cessez-le-feu, on ne parlera pas avant, par exemple, c'est une position qu'on entend. Donc, il y a un travail interne à faire, mais on sent que c'est en train de mieux dire. Qui va sortir du chapeau en tant que médiateur? Il n'y aura probablement pas un seul médiateur, et ce sera même les E3, là, qu'on voit émerger, qui rappelle un peu ce qui s'est fait avec l'Iran, tiens, d'ailleurs. Mais il faut pas trop tarder. Sinon, c'est ne doit pas de leadership pour maintenir les médiations. Une espèce de canard sans tête. On ne sait pas où il va. Il peut y avoir des gestes à considérer. Donc, du côté russe, surtout, il va y avoir du côté ukrainien. Donc, il est décevant que les Européens se mettent d'accord sur, sur le vecteur de cette politique de l'Ukraine. Sur Gazprom, je n'ai pas d'éléments particuliers. Ce que je vois, c'est que entre les positions affichées de soutien à l'effectif et puis la réalité des besoins de l'Europe, surtout après la fameuse crise des travailleurs d'Hormuz, qu'on voit aussi d'ailleurs sur le nucléaire, on parle moins du nucléaire, mais sur le nucléaire aussi, on s'est interdit d'aller au bout de la logique de ces sanctions. Et sur le gaz, vraisemblablement, il y aura une reprise d'un certain dialogue, je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais la fermeture pure et simple de tout approvisionnement gaz et russe dans les prochaines années me paraît forcément remise en question.
Alors, la question sur la guerre, les guerres Iran-Ukraine et sur un éventuel dénominateur commun, moi j'en vois un qui me paraît assez évident, c'est le détricotage international depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y en a qui disent qu'il est mort, il y en a qui disent qu'il est mal en point, enfin on peut discuter de ça. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on peut dire qu'il va pas gagner et qu'il y a une certaine forme de décomplexion par rapport à ce qui se passait il y a encore 10 ou 15 ans. Alors, l'ordre international n'a jamais été parfait depuis la création de l'ONU. On l'a bien vu, il y a eu des guerres de proxy dans les années 60, 70, avec l'Union soviétique, il y a eu la guerre du Vietnam, il s'est passé plein de trucs, il y a eu des guerres de décolonisation, avec une compétition en Afrique, on a vu les guerres Iran, Irak, dans les années 80, on a vu la guerre d'Afghanistan, il s'est passé des choses, mais entre les deux grands, grosso modo, ça se met dans le bloc Est-Ouest. Il y a une certaine règle du jeu. Moi, j'analyse, alors je ne sais pas si l'ambassadeur, M. l'ambassadeur sera d'accord avec moi, j'analyse d'une certaine manière par le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde avait connu le métier de la guerre avec les 50 millions de morts, et tout le monde avait fait la guerre. C'est-à-dire que la guerre, ce n'est pas l'affaire des militaires, la guerre, c'est l'affaire des peuples. Et après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on soit militaire, qu'on soit diplomate, ouvrier ou bien paysan, tout le monde avait fait la guerre et savait le prix de la guerre. Et ce prix de la guerre, je crois qu'on savait des deux côtés. Et il y a une certaine forme, je dirais, de rationalité qui émergeait des deux côtés dans les négociations pour quelque part plus jamais ça. Voilà. Même si on avançait sur son leadership, section à droite, à gauche, jamais, à part en 62, un moment, très court moment, avec la crise de Cuba, on est arrivé véritablement à l'idée que les deux grands blocs allaient s'affronter avec l'État qui allait débouler à droite, à gauche, etc. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, cet ordre international est quand même très mal en point. C'est-à-dire que, et moi, je l'analyse, mais ça c'est ma petite analyse, en partie par le fait que les dirigeants actuels n'ont pas connu la guerre. Poutine, c'est un mec du KGB, il y a des jeunes qui, Trump, a réussi à échapper peu après tout la guerre du Vietnam avec son métro osseux qui lui a fait échapper, mais maintenant il joue en chef de guerre. Et vous remarquerez d'ailleurs, quand on est sur le plateau, c'est très très intéressant de voir que c'est les militaires les plus modérés généralement qui disent attention, ça on ne peut pas faire, attention aux effets de nos armes qui sont limitées, et puis il y a toujours les théoriciens, certains politiciens, etc., qui nous expliquent allez en avant, droit devant. Et il est revenu un petit peu à l'idée, avec le populisme, avec les magas, que la force brute permettait de résoudre un certain nombre de problèmes. Et donc, c'est vrai chez les magas, chez les populistes, mais c'est vrai vraisemblablement chez Vladimir Poutine. Et donc, cette décrédibilisation de l'ONU, de l'ordre international, etc., c'est qu'aujourd'hui, je pense que les certainement, c'est que ces guerres peut-être n'auraient pas eu lieu, notamment avec la Russie, c'est très étonnant, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Vous voyez les guerres, on a parlé de l'Iran, etc., mais pas forcément les grands qui étaient impliqués. ce 19e siècle. Ça rappelle également, moi je le rappelle assez souvent, c'est que les 80 ans qu'on vient de vivre sont une exception dans l'histoire du monde absolue. C'est-à-dire que jamais, moi je me mets au défi de me dire quand l'Europe a connu 80 années de paix depuis 2000 ans. Ça n'existe pas. Et on a véritablement. Alors, l'Europe, hein, ailleurs, ça fait plein de trucs, mais l'Europe en fait. Et ça n'est jamais arrivé. Jamais, jamais. Ça prouve que cette période qu'on a vécue est une exception dans l'histoire du monde. Et que c'est la guerre, en fait, qui est consubstantielle à l'être humain. Et que aujourd'hui, on vient à une logique de bloc, de force, de tordre le bras à l'adversaire, je fais ce que je veux parce que je suis plus fort. Qui rappelle Thucydide, qui rappelle les impérialismes, qui rappelle un certain nombre de choses qui font que ben, aujourd'hui, ben, quand on veut quelque chose, comme on a dit maintenant, ta gueule, c'est que j'ai croqué, mais c'est faux comme c'est plus fait. Moi, je me rappelle que Poutine, au moment de l'invasion, il a sorti une petite chansonnette, une langue de force ma belle, ou un truc comme ça, etc., en parlant de l'Ukraine. Tu fais toujours, toi, t'es une petite télévision, mais j'ai répondu. Et je pense véritablement que ces deux guerres ont beaucoup de mal. C'est le même que, évidemment, Poutine veut l'Ukraine décomplexer, il fiche de tout, il bouge l'Ukraine. Trump attaque l'Iran, c'est intéressant, parce que deux membres poids lourds du Conseil de sécurité qui aujourd'hui se jettent sur leurs adversaires comme ça, sont des déclarations de guerre, etc. Israël pour en guerre avec l'Iran, on sait, ça fait 47 ans. Bon, ils ont une certaine légitimité au combat, parce que les Iraniens veulent dire des fonctions. Que les États-Unis jettent dessus, c'est aussi du bruit. C'est-à-dire que Trump, aujourd'hui, après son coup au Venezuela, il pense qu'il peut tout se permettre, et que tout va bien, il peut faire un. Donc moi, je vois véritablement, aujourd'hui, l'ordre international tel qu'on l'a connu, a vécu, il reviendra peut-être, mais pour le moment, il a vécu, on vient des logiques de confrontation de puissance qui nous rappellent plus ce qu'on a connu au 19, début du 17e siècle, que depuis 1945. Et quant à la corrélation entre les guerres, non, je ne crois pas du tout. Parce que la guerre d'Iran va s'arrêter. Oui, la guerre d'Iran va s'arrêter, Trump n'en veut plus. Je pense qu'on voit bien qu'il va absolument un accord parce qu'il est intégré là-dedans. Et il a cette qualité, moi j'aime pas Trump, mais il a cette qualité, Trump, je peux le dire, c'est qu'il sait, quand il s'est planté, il sait s'arrêter. Il a fait des guerres courtes, la guerre de 12 jours en juin 2025, il a fait son raid sur le dispositif iranien. Venezuela, il a pensé très court. Là, il a fait un truc plus long, il a pensé qu'il arriverait à s'effondrer avec l'Iran. Il n'y est pas arrivé, maintenant il cherche la porte de sortie. Au lieu de s'enliser pendant 10 ans ou 20 ans, comme on l'a fait ailleurs pendant très longtemps. Donc je pense que la guerre d'Iran va s'arrêter. Je pense que le conflit ukrainien va continuer. Alors il va continuer peut-être de manière larvée, peut-être de manière figée. Moi, ce que je vois véritablement en Ukraine, c'est la plus grande crainte, et à mon avis la plus grande probabilité, c'est un conflit de type une solution de manière coréenne, c'est-à-dire de Corée du Nord, Corée du Sud. Où on sait bien qu'on est sur une ligne de partage du front depuis 1953, en remettant au calendrier grec la résolution globale du conflit. Mais le fait est que le système fonctionne depuis 1953, et que peut-être que demain, eh ben, sur les lignes de front, personne ne reconnaîtra les conquêtes des autres, il n'y aura pas de solution de paix, etc. Il y aura un truc figé pour peut-être des dizaines d'années, c'est ça. Donc les deux conflits sont quand même de nature différente. Moi, le conflit d'Iran, je me dis, ça s'arrête. Je pense que, compte tenu des échéances de Trump, etc., etc., il ne peut pas continuer très longtemps comme ça. Il entretient une flotte de l'Iran, etc. Et il n'arrivera pas à contrôler l'Iran avec trois portages. C'est aussi simple que ça. C'est un pays de 800 000 km carrés. Voilà. Donc, c'est un petit peu ma réponse. Ça vous convient? Alors, il y a une dernière question, parce qu'il est déjà tard, voilà. Alors, c'est la dernière question. Hein.
Alors, tout d'abord, un commentaire à propos du médiateur européen. On n'a pas cité de nom, mais il y a deux noms qu'on a discuté souvent. C'est Angela Merkel, qui a eu une très bonne relation avec la Russie, et aussi Mario Draghi. Et puis, l'autre question que je voulais poser, en fait, c'est vous, général, qui avez répondu. Je voudrais revenir sur comment la façon dont on va pouvoir mettre un terme à ce conflit. Qui devait durer trois jours et qui maintenant dure depuis quatre ans. Toutes les négociations sous les auspices américaines ont échoué. Il n'y a pas le début d'un accord.
j'ai répondu. Je vais laisser monsieur l'ambassadeur, s'il a compris, s'il a entendu la question, répondre.
Comment on va mettre un terme à ce conflit qui dure depuis 3 jours, qui dure depuis 4 ans, et pour lesquels toutes les tentatives de négociation de l'Ukraine ont échoué. Donc, qu'est-ce qui nous paraît vert ? Il faudrait que les termes d'un accord puissent convenir au groupe d'un côté, du Ukrainien de l'autre, avec leur préparation territoriale, soit totalement irréconciliable.
Donc ça d'un accord en fait. On considère qu'il y a cette petite zone qu'on voit sur la carte qui est le dernier point d'achoppement, même si après tout l'accompagnement en termes de garantie de sécurité sera aussi difficile, mais le point principal c'est quand même celui-là. Je ne pense pas que Poutine, aucun allié, n'envisage une annexion totale de l'Ukraine. Il y a certains imaginer ça au début, mais je pense qu'on était plus, on a utilisé le terme de tétanisation. C'est-à-dire qu'on imaginait, en se présentant dans la banlieue de Kiev, le pouvoir allait s'effondrer sur lui-même et qu'on allait rappeler, après, les Mikovic, ça serait vraiment trop habile, mais l'équivalent moderne de Mikovic, c'est-à-dire quelqu'un qui garantit sa neutralité. Et là, ils ont été. Ils ont assez vite compris que ça ne marcherait pas, ils sont partis. Ils sont partis et ils sont concentrés sur le Donbass. Donc je pense que la façon de faire payer ce refus de changer de régime comme ça du jour au lendemain, c'est de prendre le Donbass comme un gage. Et donc c'est aussi que ça bloque en ce moment. C'est quand même pas. C'est pas un enjeu si énorme que ça. Mais il y a des questions de prestige, de politique intérieure des deux côtés, qui font que ça. Et de l'absence de médiateurs, je crois qu'ils en ont le poids. Trump a cru, en épousant à 100% les thèses russes, que ça allait suffire, mais bon. C'est un peu vengé. Donc il faut maintenant qu'on trouve une solution qui va, à mon sens, va tourner autour de cette. Est-ce que c'est 80% du Donbass, est-ce que c'est 85%, est-ce que c'est 95%. Je pense que les deux parties sont quand même assez épuisées pour ne pas se relancer dans des grandes offensives vouées à l'échec.
Si vous écoutez comme médiateur, médiatrice potentielle Angela Merkel, je m'expliquerai bien, car Angela Merkel était l'Allemagne, et donc était une des co-signataires des accords de Minsk. Elle a reconnu avec François Hollande ne pas avoir voulu les appliquer pour permettre à l'Ukraine de renforcer son armée. Donc, alors on peut appeler ça comme un sabotage. C'est une question d'appréciation. En tout cas, elle a reconnu, et François Hollande a reconnu, tout autant, qu'ils avaient, alors que nous étions à passer des nuits à rentrer les papiers, qu'ils avaient décidé in petto de ne pas appliquer les accords de Minsk. Bon, quand même, comme les Ukrainiens, c'est emporté. Alors, comme carte de visite qui vient de Pékin, c'est pas tellement porteur, à mon avis.
Je crois qu'on va s'arrêter ici. Merci pour votre présence. Je tiens à signaler qu'entre la salle et